J'imagine que tous les auditeurs remplissent régulièrement sur Internet des cartouches avec des lettres bizarres, déformées, pour prouver que c'est bien une personne humaine et non un robot qui fait la transaction. Dans le jargon des informaticiens, ce cryptogramme s'appelle un CAPTCHA. Mais les auditeurs auront également remarqué qu'il leur est parfois demandé de reproduire un second mot, appelé reCAPTCHA. Celui-ci n'a aucune utilité pour la transaction, mais sert en réalité à améliorer les scans de Google Books. En effet, lorsque l'on photocopie un vieux livre, certains mots apparaissent déformés ou deviennent flous lorsque la marge intérieure est trop petite. Et cela met en échec les logiciels de reconnaissance de texte. Pour rendre le texte plus complet et lisible, il faut retaper ces mots. Et Google a eu l'idée géniale de prendre quelques secondes parmi les 500 000 heures passées par jour par les internautes à ce type d'exercice. Cette pratique illustre à la perfection ce que Nicolas Collin et Henri Verdier appellent la transformation de la valeur à l'ère numérique, qui consiste désormais à capter la puissance de la multitude, c'est-à-dire l'activité cognitive de centaines de millions d'utilisateurs d'applications. Pourquoi alors s'émouvoir d'une telle pratique? N'est-ce pas ce que font les GAFA et tant d'autres qui ne vivent que des traces de nos activités et de nos identités sans contrepartie ni d'ailleurs notre consentement? Peut-être. Mais dans l'affaire qui nous intéresse, ce qui est exploité, ce ne sont pas nos traces, mais bien une activité qui n'exige aucune créativité ni aucune interactivité. Et c'est pourquoi une femme a attaqué Google dans le cadre d'une class action, en demandant réparation pour tous ces travailleurs forcés du net. Cette action de groupe a été rejetée le 3 février dernier par un juge américain qui n'a pas été convaincu du droit des internautes à percevoir une quelconque rémunération pour les secondes nécessaires à taper le second mot. Mais cette affaire me pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, la qualification de travail. Parce que le fait qu'il soit infinitésimal ne change rien à sa nature. Il y a bien un employeur, des consignes et un lien de subordination. Il s'agit donc bien d'un travail, mais d'un travail sans contrat formel, ni même implicite. À aucun moment, en effet, il est précisé que cette petite tâche est destinée à Google Books. Et donc, aucune possibilité de retrait n'est offerte, l'internaute ne sachant pas si cette opération est indispensable à la transaction qu'il veut faire sur Internet. Ce travail peut-il être qualifié de collaboratif? Non, car c'est plutôt une collaboration forcée et non proposée dont il s'agit. Ce travail est gratuit, mais ces quelques secondes ne sont pas à proprement parler données par les internautes, mais frauduleusement prises par Google. La première tâche de la justice serait donc d'obliger Google à informer les internautes de ce qu'il leur demande de faire. La troisième question est celle de la contrepartie. Comment indemniser un tel travail? Il semble en effet bien difficile de payer quelques secondes. On pourrait imaginer que Google s'engage à faire un don substantiel en contrepartie à une association œuvrant pour la divulgation de la connaissance dans les pays pauvres, par exemple. Et cette pratique de la compensation se répand de plus en plus, notamment en droit de l'environnement. Mais une dernière difficulté réside non pas tant dans la contrepartie due aux travailleurs que dans l'enrichissement sans cause et dans l'absence de toute contrepartie publique. Google profite de 500 000 heures de travail gratuit par jour pour améliorer ses performances commerciales et ne paye pas de surcroît d'impôts. Il faut voir dans ce petit exemple le signe prémonitoire de ce que pourraient faire les grandes entreprises du numérique demain en abolissant toute médiation. Médiation du droit, médiation du contrat de travail, de l'échange économique, voire du langage lui-même. Un simple stimulus fait réagir dans le sens souhaité par le dominant des millions, voire des milliards de personnes, sans qu'elles soient coordonnées entre elles. Cet échange met aux prises une volonté commerciale d'un côté et de l'autre des milliards d'internautes dont la volonté a été détournée par surprise. D'où l'intérêt de la class action intentée par cette plaignante, cette sorte d'Erin Brockovich, qui a pour effet de concentrer la puissance diffuse de la multitude des internautes en un point, non pour créer de la valeur, mais pour faire respecter le droit de chacun.